Ben oui, on est de retour dans le club. Il est 8h27 et nous sommes ici jusqu'à 10h. On va poursuivre un petit peu sur le thème du football universitaire parce que ça commence tranquillement, on vient de le dire, les Carabins qui amorcent le bref calendrier préparatoire samedi. Ça se passe ici sur la montagne à 14h. Et pour parler de ça et de bien d'autres choses, Philippe Malo est avec nous, du site bulletinsportif.ca. Salut Philippe!
Salut Richard!
Ça va bien?
Ça va très bien, toi.
Oui, écoute, beaucoup de gens me posent la question. Je vais te la poser parce que tu as suivi beaucoup plus ça que moi l'an passé. Tu as suivi tu suis beaucoup le football universitaire canadien. On vient de parler avec Marco Iadaluca, le coach des Carabins. On a parlé brièvement de Jonathan Sénécal, évidemment, qui n'est plus là, mais qui est chez lui présentement. Il a été retranché rapidement du camp des Alouettes. Beaucoup de gens se demandent comment ça se fait qu'un joueur qui était si dominant est chez lui présentement et que le téléphone ne sonne pas? Est-ce que la marche entre les espoirs des collèges américains et ceux d'ici, elle est si grande? Comment tu expliques ça?
Ben, oui, la marche est grande. OK, on va se le dire. Ceci étant dit, bon, ça prendrait probablement un expert encore arrière comme tel pour un moment donné arriver à m'expliquer cette nuance-là, mais... Oui, la marche est grande. Maintenant, Jonathan n'a pas eu une énorme opportunité de se faire valoir au camp des Alouettes. Probablement un élément de marketing qui a fait qu'on l'a repêché et qu'on savait qu'on aurait peu de place pour lui à ce moment-là. Fait que ça, c'est un élément qui peut expliquer pourquoi Jonathan n'a pas continué, même sur l'équipe de réserve ou quoi. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi c'est pas lui qu'on contacte? Je ne saurais pas dire. C'est pas vrai que Jonathan Sénécal n'a pas les atouts pour au moins prendre le temps de se développer. Maintenant, deviendrait-il un joueur partant, un joueur régulier dans la Ligue canadienne de football? Je ne saurais pas le dire, on ne peut pas le deviner, mais il n'a clairement pas eu l'opportunité nécessaire. Et à cause de ça, je pense qu'on ne sera jamais complètement capable d'évaluer. Mais comme je te disais au départ, tu sais, rendu là, je pense que ça prendrait un expert des quarts arrière pour m'expliquer la différence si grande qu'on voit qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même s'il a continué de s'entraîner, même s'il a continué pendant l'été de travailler, dans l'espoir de peut-être se faire appeler, il est toujours pas appelé là, pour au moins aller peut-être donner un coup de main.
Et ça me rappelle un peu un autre cas similaire. Il y a une vingtaine d'années, tu te souviens de lui, Mathieu Bertrand, qui était le carrière du Rouge et Or au début des années 2000, complètement dominant sur la planète football universitaire canadien. Tente de passer chez les professionnels. Puis finalement, Mathieu Bertrand a joué de mémoire avec les Eskimos d'Edmonton à l'époque, comme on les appelait, mais à titre de centre arrière. Donc, il était dominant ici là, comme quart arrière. Et là, se retrouve chez les professionnels au football canadien, mais doit changer de position pour avoir une job, en d'autres mots. Ça me rappelle un peu ce cas-ci. Là, je ne veux pas comparer les joueurs, mais certainement des situations similaires. Alors, est-ce que vraiment nos jeunes carrières ici dans le football canadien se développent moins bien que du côté américain? C'est dur à expliquer quand même, là.
Ben tu sais, Richard, il y a un élément. Pour commencer, je pourrais te donner l'exemple qu'on a actuellement de Taylor Elgersma, qui a été joueur par excellence l'année passée au football canadien, qui est au camp des Packers, qui a même eu la chance de lancer quelques balles pendant un match hors concours. Ce gars-là est un exceptionnel, puis il jouait pour Laurier l'année passée et il a été présent, on l'a vu en finale de la Coupe Vanier. Et tu sais, ça se peut, un joueur canadien formé au Canada qui se développe et qui a une chance de faire des choses. Par contre, tu sais, à un moment donné, il y a une question de nombre là pour commencer. Aux États-Unis, il y a tellement plus de joueurs de football que trouver la crème de la crème. Il n'y a pas beaucoup de postes de carrière professionnelle dans le monde là quand on regarde ça. Puis la quantité de gars qui s'essayent pour être carrière. Donc, à un moment donné, tu arrives au haut de la pyramide, fait que les opportunités sont très, très minces, sont peu nombreuses, c'est une chose. Mm. Est-ce que se développer au Canada versus les États-Unis, c'est une différence? Peut-être. Jonathan Sénécal, je lui parlais d'ailleurs, j'ai écrit un article parlant de la fin de la carrière de Jonathan Sénécal, puis lui-même me disait, pour les ce qu'on appelle les skills players, il y a probablement un avantage à aller aux États-Unis. Assurément, pas nécessairement parce que les coachs savent les entraîner, mais à un moment donné, il y a une question de compétition contre qui tu joues, il y a une question de... il faut c'est une petite technique ici et là, c'est un élément de plus que tu apprends en parlant à plusieurs personnes différentes dans ton développement, qui fait qu'aux États-Unis, on arrive à former des carrières. Mais sachons-le, la différence de nombre de joueurs qui se présentent à cette position-là aux États-Unis versus au Canada fait en sorte que c'est plus simple. Puis, l'opportunité, ultimement, c'est sûr. Moi, je le dis, je le répète, je pense que Jonathan Senecal, dans son cas à lui, méritait assurément une opportunité de travailler un an ou deux dans un système professionnel pour voir comment il se serait développé. Là, ouais. C'est pas arrivé. Mais on va le voir avec d'autres. On l'a vu, regarde, t'as un Trey Ford, t'as un Nathan Rourke, là, je parle d'Elgar Smith, vous allez le voir, là, ce gars-là, c'est des Canadiens. Mm-hmm. Et puis, Elgar Smith, il a été élevé dans le football canadien au Canada. On va voir ce que ça va donner plus tard. Mais il faut être un exceptionnel, puis c'est là.
c'est à un moment donné, joue. C'est la pointe de l'iceberg. Et si on reste du côté des Carabins un petit peu, Philippe Marleau, évidemment, quand on perd un joueur de ce calibre-là, à ce poste-là qui est névralgique, évidemment, ça peut être difficile. Est-ce que tu penses que le virage et l'après Jonathan Senecal, ça va être un peu compliqué du côté des Carabins?
Oh, c'est une grosse question au départ de la saison comme ça. Le talent de celui qui va éventuellement le remplacer, qui est Pepe Gonzalez, est indéniable. Ce gars-là a un bras canon, capable de faire tellement de choses. Vous allez voir, c'est un joueur de haut niveau. Maintenant, il y a l'élément d'expérience. Là, on parlait de Jonathan Senecal qui avait eu le temps de se développer pendant 4 ans avec le foot universitaire, avec le football à 3 essais aussi qui implique un paquet de choses. On joue contre des meilleurs joueurs plus rapides. Il y a un paquet d'éléments qui font qu'il y a un ajustement à faire. Est-ce que Gonzalez va être capable de rapidement s'intégrer dans le système assez pour le rendre très efficace? On peut pas lui demander d'être du niveau de Jonathan Senecal dès sa première année. Ceci étant dit, c'est peut-être même pas lui qui va commencer. Là, je parle de Gonzalez comme étant le cadre d'avenir des Carabins. Peut-être pas lui qui va commencer. On parle de Rakim Canal-Charles qui a été le numéro 2 avec les Carabins dans les dernières années. C'est peut-être lui qui va avoir le poste au début de l'année, question de partir les choses avec un vétéran. Mais c'est un gros point d'interrogation en commençant l'année pour les Carabins, c'est sûr.
Ouais. Et là, je demandais à Marco Iadolu, évidemment, l'entraîneur des Carabins, de nous parler un petit peu des forces en présence et des ennemis à avoir à l'œil. Puis évidemment, on va regarder du côté du Rouge et Or. Hein? On peut pas. À chaque année, on sait qu'ils vont être dans le portrait. Est-ce que tu penses que encore cette saison, ce sera le Rouge et Or qui sera peut-être l'équipe à battre?
Bon, on n'a pas le choix de les positionner là. Un, ils sont champions en titre, puis deux, leur noyau revient à 95% des joueurs partants reviennent. Et ceux qui sont partis vont être remplacés par des joueurs extrêmement talentueux qui ont travaillé dans le programme depuis des années, qui sont préparés. C'est une pépinière, le Rouge et Or. C'est une usine de joueurs de football. On le sait comment préparer nos gars. Même les joueurs qui le disent, quand on parle avec eux, disent « Écoute, quand on est à l'entraînement, là, quand on travaille contre la deuxième, la troisième unité, c'est du même niveau de talent à chaque fois. » Donc, le talent qui va venir remplacer ceux qui sont partis va être là, il n'y a pas de doute. Comme je dis, le noyau revient. Les joueurs les plus importants vont tous être là. Puis on a même ajouté un receveur de passe de très haut niveau en Nathan Carignan, bon, qui va rater le début de la saison parce qu'il a été blessé, il se remet d'une opération. Mais non, le Rouge et Or est assurément le chef de meute, là, si on veut, pour commencer la saison. C'est l'équipe qui va être favorite, il n'y a pas de doute. Maintenant, l'année passée, on avait dit la même chose des Carabins qui étaient champions en titre puis qui avaient leur noyau au complet ou presque, qui revenaient. Puis c'est le Rouge et Or qui a gagné, donc à voir.
Ouais. Mais est-ce que c'est exact ou est-ce qu'on fait fausse route d'affirmer qu'au football universitaire québécois, c'est seulement l'affaire de deux programmes? Est-ce que c'est exagéré de dire ça? Est-ce qu'on fait fausse route? Parce qu'on entend souvent dire ça. Ouais, c'est le Carabin, c'est Rouge et Or, puis il reste. Est-ce que c'est exact de dire ça?
Ben, c'est factuellement exact, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que c'est réducteur de s'empêcher d'aimer le football universitaire québécois à cause de ça. Éloi la tendresse Réginbald avec les Redbirds de McGill, à lui seul vaut le spectacle. On l'a vu l'année passée, il a fait des grandes choses. Puis McGill, d'ailleurs, avec Alex Surprenant qui est arrivé comme entraîneur il y a 2 ans ou 1 an et demi, a fait un travail colossal de recrutement. Donc, il va y avoir des choses vraiment intéressantes avec McGill. Est-ce que McGill est rendu déjà à se battre avec Montréal et Laval pour la tête du classement? je vais me garder une gêne, on n'est pas rendu là, là. C'est beaucoup de recrues qui s'en viennent, mais ça reste que ça va être très intéressant. Donc oui, c'est sûr que c'est toujours rouge et or et carabin. Je veux dire, quelqu'un qui dirait le contraire, il suit pas ce qui se passe du tout. Là. On le sait que c'est eux. Mais il y a des très, très, très bons joueurs de football partout. Il y a des bons matchs qui se jouent. Puis un Concordia McGill, ratez pas ça cette année, là, ça va être excellent. Je vais faire la comparaison. Regardez aux États-Unis, ceux qui suivent la NCAA, il y a combien d'équipes qui ont une réelle chance de gagner le championnat national ou le championnat de certaines conférences? C'est essentiellement les mêmes équipes qui reviennent, les mêmes programmes. On parle même pas des autres, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de programmes qui ont aucune chance à chaque année. Pourtant, on ne me dit pas que la NCAA, c'est un produit qui n'est pas intéressant. Donc, c'est pas ça. On n'est pas obligé de voir un match de l'équivalent d'une finale pour avoir des matchs intéressants. Il y a vraiment autre chose. Il y a beaucoup de talent à bien des places. Je vous le dis, le Concordia McGill, surveillez ça, il y a des bonnes choses. Puis, il faut jamais écarter le vert et or qui trouve le moyen de s'organiser pour donner des bons matchs à ces équipes-là. On ne sait jamais. Mais, tu sais, regarde, oui. C'est Carabin puis Rougéard qui vont aller en finale. Vous pouvez gager ça, puis vous avez. Je vous donnerai pas des grosses cotes. Des grosses
choses à gagner. Oui, puis c'est une question aussi, je pense. Tu parlais des clubs de la NCAA, qui souvent les forces, c'est le recrutement. Puis après ça, oui. c'est les moyens qui sont derrière. Ben, je pense qu'on peut s'entendre probablement que du côté de Laval, puis du côté des Carabins, ben, c'est aussi la même chose un petit peu. Là. C'est quand même des grosses machines de recrutement. Là.
Ben ça c'est la base. C'est pour ça qu'on vient de le voir à McGill, justement, qui ont travaillé extrêmement fort pour modifier un paquet de choses qui fait en sorte que le recrutement est devenu intéressant. C'est les gens qui recrutent, c'est l'environnement qu'on propose. Faut aller visiter une fois l'avoir vu juste par photo, le vestiaire du Rouge et Or. Mm-hmm. Allez voir de quoi ça a l'air, les installations qui sont là. Vous allez avoir l'impression que vous allez dans un club professionnel. C'est du très haut niveau. J'ai 19 ans, je sors du cégep, puis on me propose d'aller là avec des chances de gagner des coupes Vanier, puis de travailler dans un environnement comme celui-là, avec l'encadrement qui vient tout autour, là, que ce soit pour ma santé, que ce soit pour le suivi académique, tout ce qui vient avec. Ça se peut que j'aille le goût d'aller là, ouais. C'est normal.
Ouais. J'ai vu les installations moi-même, mais je dois t'avouer que c'est très impressionnant.
Ça a un impact. Ouais. Quand on dit l'argent a un impact, ben, c'est là-dessus. C'est pas parce qu'on paye les joueurs, on n'a pas le droit de le faire, mais il y a moyen de créer des environnements. Ouais. Et, comme ça, on attire les meilleurs joueurs. Puis, veux pas, les championnats attirent les championnats. C'est à un moment donné, quand on est gagnant, ben c'est une carte de visite aussi de plus.
Absolument. Bien, Philippe Malo du site bulletinsportif.ca, merci beaucoup pour ta présence à l'émission ce matin.
Merci pour l'invitation. Au plaisir, mon cher Richard.
Merci, ça allait bien. 8h40, on s'arrête un tout petit peu. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.